Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. L'Arabie Saoudite et l'Iran annoncent le rétablissement de leurs relations diplomatiques. Les deux pays avaient rompu leurs liens en 2016. Le tremblement de terre du 6 février en Turquie et en Syrie. Une conférence internationale des donateurs aura lieu le 20 mars à Bruxelles. Une réunion pour mobiliser des fonds en faveur des populations touchées. La France fait part de sa préoccupation suite aux violences contre les civils dans les territoires palestiniens. Paris souligne qu'il est urgent de rétablir une perspective politique en faveur d'une solution à deux États. Le Parlement tunisien tiendra lundi prochain sa séance plénière inaugurale et élira le président de l'Assemblée des représentants du peuple et ses deux vice-présidents. Les députés ont adopté une proposition de loi qui instaure une aide universelle pour faciliter le départ du foyer d'une victime de violence conjugale. Béatrice Descamps, députée du Nord, co-rapporteure de ce texte, sera l'une de nos invitées. Le mois de février dernier a été le quatrième plus sec en France, enregistré depuis 1959. L'Afrique du Nord est également exposée à la sécheresse. Notre invité sera François Gémen, co-auteur du dernier rapport du GIEC. Ce sera demain la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Emmanuel Macron présidera une cérémonie aux Invalides. L'architecte et militant de gauche Roland Castro est décédé. L'urbaniste, notamment à l'origine de la Bourse du Travail à Saint-Denis, était âgé de 82 ans. L'Arabie Saoudite et l'Iran ont donc décidé de rétablir des relations diplomatiques et de rouvrir leurs ambassades. Une annonce faite par les deux pays aujourd'hui. Les liens étaient rompus depuis 2016. Riyad et Téhéran ont aussi convenu de respecter mutuellement leur souveraineté et de ne pas interférer dans leurs affaires intérieures respectives. Une annonce faite à l'issue de pourparlers entre les dirigeants des deux pays en Chine. Téhéran et Riyad soutiennent des camps rivaux dans plusieurs conflits dans la région, notamment au Yémen. Objectif, mobiliser des fonds en faveur des populations affectées par le séisme dévastateur du 6 février en Turquie et en Syrie. Une conférence internationale des donateurs se tiendra le 20 mars prochain à Bruxelles. Une conférence mise sur pied par la Commission et la présidence suédoise du Conseil de l'Union européenne. Les séismes qui ont frappé le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine ont fait plus de 50 000 morts. Des centaines de milliers de bâtiments se sont effondrés ou sont désormais condamnés, laissant près de 2 millions de personnes à la rue. La France exprime sa vive préoccupation après l'opération israélienne à Jenin mardi dernier. Au moins 6 Palestiniens ont été tués et de nombreux blessés. Paris, selon les mots du Quai d'Orsay, réitère son appel au gouvernement israélien au titre des obligations internationales qui lui incombent en sa qualité de puissance occupante à protéger les civils palestiniens. La France demande également aux différentes parties d'honorer les engagements pris lors de la réunion d'Aqaba du 26 février et de mettre en œuvre les demandes du Conseil de sécurité des Nations Unies du 20 février dernier, en particulier celle relative à la cessation de toute violence à l'égard des civils. Paris souligne qu'il est urgent de rétablir une perspective politique en faveur d'une solution à deux États vivant côte à côte en paix et en sécurité. Le Hamas a revendiqué la responsabilité de l'attaque menée hier soir dans un café situé dans le centre de Tel Aviv, attaque qui a fait 3 blessés. L'assaillant a été abattu. Cette semaine a été marquée par la Journée internationale des droits des femmes. C'était mercredi dernier. Les députés français ont récemment adopté à l'unanimité une proposition de loi qui instaure une aide universelle pour faciliter le départ du foyer d'une victime de violence conjugale. Béatrice Descamps, députée de la 21e circonscription du Nord, a été la co-rapporteure de cette proposition de loi. Elle revient tout d'abord sur l'importance de la journée du 8 mars.
Elle a le mérite que l'on mette en évidence ce sur quoi nous devons travailler chaque jour. Rappeler combien il est important de défendre les droits des femmes, tellement bafoués dans de nombreux pays, et de continuer à les défendre ici, à faire avancer les choses dans notre pays, en France. Des femmes se sont battues, mais certains droits, il faut le savoir, sont relativement récents en France. Le droit de vote, le droit de choisir son travail sans l'aval du conjoint, par exemple, ça date du XXe siècle.
Le droit d'avoir un compte bancaire également.
Voilà, donc ça date d'hier. Donc pour ces femmes qui se sont battues pour nous, pour les femmes d'aujourd'hui, pour nos filles, on doit continuer à se battre. Il y a encore beaucoup à faire. Je pense qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes et que nous devons tous être concernés, élus ou pas élus, pour lutter contre ces stéréotypes, changer les regards, changer les mentalités.
Quel type d'avancée concrète demandez-vous aujourd'hui ?
Je pense qu'il faut qu'il y ait un réel travail de fait, de fond, en tout cas, sur la femme et le monde professionnel. Le choix d'une profession n'est pas anodin. Or, ça commence par là. Et quelquefois, des filles se refusent d'envisager certaines filières, par exemple. Et ça ne devrait pas arriver. Donc je pense que quand je parle de ce travail de fond, on peut commencer par l'orientation scolaire, l'orientation professionnelle. Et puis forcément, je vais vous parler de la reconnaissance des compétences des femmes, la reconnaissance salariale, l'égalité aussi de salaire entre hommes et femmes dans le privé. Et puis je pense qu'il faut aller plus loin, on le voit aujourd'hui avec ces débats sur la retraite. Les femmes ont souvent des carrières entrecoupées, elles font des choix en tant que maman, et je pense qu'on doit, en France, regarder cela de plus près et peut-être faire certaines propositions aussi qui pourront faire avancer les choses pour ces femmes qui choisissent à la fois d'avoir des enfants, d'être mère de famille, mais d'avoir aussi une activité professionnelle et être reconnue en tant que telle.
Et sur ces questions, comment appréciez-vous la politique menée par l'exécutif ?
Il y a quelques avancées, que ce soit sur ces questions. On peut parler aussi des violences conjugales, même si ça peut être homme ou femme. J'ai été rapporteur d'un texte ici il y a peu de temps à l'Assemblée. Les choses avancent doucement, comme beaucoup reste à faire. Après, on peut pas tout faire d'un coup. Le tout, c'est de savoir vraiment vers où on veut aller pour construire progressivement ce à quoi on doit arriver. Et il y a des points sur lesquels on peut avancer très vite. Je pense à cette fameuse taxe rose. Pourquoi un déodorant pour une femme est-il plus cher qu'un déodorant pour un homme ? Pourquoi est-il plus coûteux de faire repasser un chemisier qu'une chemise, etc. Donc ça, ce sont des petites choses. Et puis, il y a un vrai travail de fond, peut-être plus à long terme, mais il faut s'y atteler tout de suite, justement.
Il y a un travail important à mener concernant la lutte contre les violences faites aux femmes également.
Tout à fait. Donc le ministère y travaille. Il y a eu, je vous disais, le texte que j'ai rapporté ici, c'est un texte qui permet d'apporter une aide financière d'urgence au conjoint ou à la conjointe, mais souvent ce sont des conjointes qui prennent la décision, qui n'est pas facile à prendre, souvent par un frein financier, de quitter le domicile alors qu'ils sont victimes de violences. Et puis il y a les enfants qui sont là et qui forcément, aussi, quelque part, souffrent forcément de cette situation. Donc oui, il y a des avancées, il faut qu'on continue à travailler sur le sujet, il faut qu'il y ait un accompagnement, par exemple, global de ces familles.
Ce texte que vous mentionnez, il est important, il permet aux femmes de sortir des griffes de leur conjoint.
Voilà, c'est exactement ça, sortir des griffes. Or, on sait très bien qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas sortir des griffes, qui se disent ne pas pouvoir, ou d'autres qui le font, et qui malheureusement reviennent au foyer parce que financièrement, elles ne peuvent assumer le quotidien qui est le leur, mais surtout celui de ses enfants. Aujourd'hui, cette aide financière d'urgence, alors c'est pas la panacée, il y a beaucoup à faire, c'est pour ça que je vous parlais de l'accompagnement global, parce que moi je pense que c'est un tout. Après, il faut les accompagner. Et puis, je parlais des enfants tout à l'heure, là aussi il y a un travail à faire. Quand on parle sur les violences conjugales, on parle des femmes, on parle aussi des enfants, et il faut absolument qu'il y ait des professionnels pour accompagner ces enfants, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, une fille qui a vécu en tant qu'enfant des violences intrafamiliales supportera, entre guillemets, des violences conjugales parce qu'elle ne saura pas faire la distinction à quel degré elle est victime de violence, parce qu'elle l'a toujours été. Donc il y a un véritable travail à faire auprès des enfants aussi.
Concernant ce texte qui permet aux victimes de bénéficier d'un soutien financier, pour les personnes qui nous écoutent, qui peut-être sont victimes de ce type de violence, tout simplement, quel type d'action doivent-elles mener ?
Alors, soit en passant par les services sociaux, ou lors de déclarations, de dépôt de plainte, par exemple. Cela peut passer aussi lors de prise en charge médicale. Voilà, il y a des moyens. Bon, le texte vient d'être voté au Sénat, il va être très vite applicable. Il faut justement, votre question est très importante, parce que ça montre qu'il faut absolument que nous communiquions bien auprès d'un maximum de personnes, des citoyens, des citoyennes, mais aussi de tous les intervenants, parce que là, ça va être important que ces femmes sachent qu'elles ont le droit à cela. Vous avez tout à fait raison.
Et le montant de cette aide, comment sera-t-il défini ?
Alors, le montant de cette aide sera, au départ, ce sera une somme, mais alors qui ne sera pas énorme. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'elle sera adaptée. C'est pour ça que je parle à nouveau d'accompagnement global, parce qu'elle sera adaptée en fonction des besoins de la famille. Parce que parmi ces femmes qui vont quitter le domicile, il y a des femmes qui ont une activité professionnelle et qui pourront la reprendre peut-être vite, mais il y a aussi des femmes qui ont une activité professionnelle et dont le mari mari ne sait pas disposer de l'argent. Donc voilà, il faudra que dans un deuxième temps, il y ait une analyse plus affinée pour trouver l'aide financière la plus adaptée aux besoins et à la situation de la famille.
Béatrice Descamps, députée de la 21e circonscription du Nord. Le Parlement tunisien tiendra lundi prochain sa séance plénière inaugurale. L'élection du président de l'Assemblée des représentants du peuple et ses deux vice-présidents se fera par un vote secret. Le candidat à la présidence du Parlement doit obtenir la majorité absolue des voix. Le mouvement Ennahda a publié hier soir un communiqué pour condamner la dissolution des conseils municipaux. Le parti dénonce une décision, selon lui, pour détourner l'attention des Tunisiens de ces vrais problèmes. Le président turc confirme par décret la tenue des élections présidentielles et législatives le 14 mai prochain. Recep Tayyip Erdogan, qui est candidat à sa succession, il a lancé officiellement la campagne électorale. Le mois de février dernier a été le quatrième le plus sec en France, enregistré depuis 1959. L'Afrique du Nord est également exposée à la sécheresse. Entretien avec François Gémen, co-auteur du dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, auteur de « L'écologie n'est pas un consensus » aux éditions Fayard. François Gémen.
La pluviométrie qu'on a connue au cours des dernières semaines est tout à fait inhabituelle pour cette période de l'année et qu'effectivement ça entraîne des conséquences graves à la fois sur le niveau des nappes phréatiques et donc potentiellement l'approvisionnement en eau de plusieurs activités, à commencer par les activités agricoles, ce qui fait craindre effectivement une grave crise agricole et potentiellement aussi une crise alimentaire et une envolée des prix des denrées alimentaires. Et donc on est sur un phénomène de réaction en cascade. Il faut bien comprendre que c'est très inhabituel pour la saison et que donc nous sommes dans un climat qui devient de plus en plus instable, de plus en plus aléatoire. Or, l'agriculture repose largement sur une question de prévisibilité du climat et des saisons. S'il n'est plus possible de les prévoir, ça nous expose à des crises agricoles à répétition.
C'est une situation inédite, ce qui se passe, notamment au Maroc, et les conséquences sur la culture des céréales.
Il est certain que pour la saison, en février-mars, c'est une situation relativement inédite. Même malheureusement, c'est une situation qui sera vraisemblablement amenée à se reproduire à l'avenir sous l'effet du changement climatique.
Cette situation également en France, une sécheresse inédite aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire part de cette situation aujourd'hui?
Oui, aujourd'hui le niveau des nappes phréatiques en France est exceptionnellement bas pour la saison et effectivement les agriculteurs en sont déjà à guetter le ciel en espérant des précipitations. Alors fort heureusement des précipitations sont annoncées pour les prochains jours, ce qui laisse augurer un répit, mais qui pourrait n'être que de courte durée. Ce qui est fondamental, c'est que nous avons toujours considéré l'eau comme une ressource abondante et quasi illimitée. Il va falloir accepter le fait que l'eau n'est plus une ressource aussi abondante et sans doute revoir certains usages qui en sont faits, y compris dans le domaine agricole.
Comment faire? Quelles peuvent être les différentes alternatives? Comment nos comportements peuvent-ils évoluer face à cela?
Il va y avoir des arbitrages politiques à faire. Il va d'abord avoir la question de la récupération des eaux de pluie. Actuellement, en France, seuls 8% des eaux de pluie sont récupérées. Il va sans doute falloir trouver des moyens de récupérer davantage d'eau de pluie. Il y a aussi la question des cultures et notamment de certaines céréales. Peut-on encore cultiver en France des cultures qui sont très consommatrices d'eau? Je pense notamment à la culture du maïs. Faut-il passer à d'autres types de cultures? Voilà des questions et des arbitrages très délicats qu'il va falloir opérer dans les prochains mois ou les prochaines années.
Vous estimez que cette situation est suffisamment mise en lumière aujourd'hui en France et plus globalement à l'international?
Elle est mise en lumière aujourd'hui, mais d'une part, elle n'a pas été anticipée et je crains fort qu'elle ne soit oubliée dès les premières gouttes de pluie. Or, nous sommes face à un problème véritablement structurel qui va demander des réponses politiques structurelles. Et je crains qu'on ne le traite comme un phénomène exceptionnel, conjoncturel, qui n'aurait pas vocation à se reproduire, alors qu'il a bien entendu vocation à se reproduire.
Une situation qui touche l'ensemble de la planète. Ce chiffre, qui peut sembler étonnant, 1% de la population états-unienne a dû fuir son logement en raison d'une catastrophe climatique ou naturelle.
Bien sûr. On sait que les États-Unis font partie des régions du monde qui sont très exposées aux catastrophes climatiques. Et d'ores et déjà, les catastrophes climatiques sont devenues un des premiers facteurs de migration et de déplacement de population dans le monde. En 2021, ce sont 24 millions de personnes qui ont été déplacées, qui par des sécheresses, qui par des ouragans, qui par des inondations. Et ce ne sont pas uniquement les pays du Sud qui sont touchés.
Et la migration climatique a bien entendu déjà commencé, ça c'est important.
Bien entendu, nous avons tendance à le voir comme un problème, comme un risque futur que nous pourrions encore éviter grâce à une baisse substantielle de nos émissions de gaz à effet de serre. Et souvent, nous ne réalisons pas à quel point c'est déjà une réalité présente qui demande des réponses politiques immédiates.
Une réalité présente, dans quelle proportion aujourd'hui et comment est-ce amené à évoluer ?
Chaque année, le nombre de personnes déplacées par des catastrophes climatiques est le double ou le triple du nombre de personnes déplacées par des violences ou par des conflits. Pour 2021, c'est donc 24 millions de personnes. On n'a pas encore les chiffres de 2022, mais ils seront vraisemblablement supérieurs encore, notamment en raison des inondations de mousson catastrophiques au Pakistan. Et à ce chiffre, il faut ajouter tous ceux et toutes celles qui sont déplacés par des dégradations plus lentes de leur environnement, comme la dégradation des sols ou la hausse du niveau des mers, des migrations qu'on qualifie souvent de migrations économiques, mais qui en réalité sont très souvent également écologiques, parce que la principale source de revenus d'un grand nombre de personnes sur la planète dépend intrinsèquement des conditions environnementales.
Il existe une prise de conscience aujourd'hui de la part de la population, notamment française, face à cette situation ?
Non, je crois que les gens sont concernés, tracassés par la question du changement climatique, voient bien l'environnement autour d'eux qui est en train de changer, mais on a encore volontiers tendance à voir certaines de ces conséquences économiques, politiques et sociales, en particulier le déplacement de personnes, comme un risque lointain et distant, sans réaliser qu'il est déjà là avec nous.
Vous l'avez dit, hein, au cours de cet entretien, lorsqu'il va se mettre à pleuvoir, la question de la sécheresse ne sera plus évoquée. Or, il faut une véritable prise de conscience. C'est important, vous, en tant que membre du GIEC, vous participez à cette prise de conscience.
Il est important, effectivement, de réaliser que nous sommes face à une transformation structurelle du climat et pas du tout à des phénomènes exceptionnels qui n'auraient pas vocation à se reproduire. Et c'est pour ça que je n'aime pas non plus qu'on parle de crise climatique qui donnera à penser que nous vivons une période éphémère avant un retour à la normale. Il faut réaliser que la normale, elle est devant nous, elle n'est pas derrière nous. Le changement climatique, c'est un voyage sans retour.
Il s'agit aujourd'hui d'anticiper les phénomènes à venir, c'est aussi ce que vous nous dites ?
Bien entendu, et on a encore volontiers tendance à opposer dans le débat public les questions d'adaptation et les questions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En réalité, nous n'avons plus aujourd'hui le luxe de choisir. Et il faut à la fois réduire nos émissions, c'est évidemment la priorité première, mais il faut aussi d'ores et déjà nous adapter aux impacts du changement climatique et une partie de ces impacts seront inévitables. Plus nous les anticiperons, plus nous réduirons les dommages associés à ces impacts.
François Gémen, co-auteur du dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, auteur de « L'écologie n'est pas un consensus » aux éditions Fayard. Ce sera demain la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Emmanuel Macron présidera une cérémonie aux Invalides. Ce sera la quatrième fois que l'État commémorera cette journée créée au niveau européen après les attentats de Madrid du 11 mars 2004. L'architecte et militant de gauche Roland Castro est décédé. L'urbaniste, notamment à l'origine de la Bourse du Travail à Saint-Denis, était âgé de 82 ans. Il n'a cessé au cours de sa vie de mettre en avant le lien entre urbanisme et lien social. Fin de cette édition. Un grand merci pour votre fidélité. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Roxane Lundy, conseillère municipale de Beauvais, membre de la Direction nationale de Génération. Une émission présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.